Bienvenue dans un nouvel épisode du MC Talks. C'est une escapade en montagne que je vous propose aujourd'hui. Après ses études, Mathilde fit un choix de vie surprenant. En effet, elle décida de devenir bergère. Pourquoi a-t-elle pris cette décision? Comment a-t-elle fait la transition entre sa vie d'étudiante et sa vie à la montagne? Quel est son quotidien? Elle nous raconte tout durant cette conversation. La connexion internet n'a pas toujours été optimale, certaines parties de la discussion ont été coupées, je m'excuse donc d'avance pour la qualité audio de l'épisode. Et avant de vous faire écouter ma conversation avec Mathilde, je voulais aussi vous faire passer un petit message. J'ai créé ce podcast avec le rêve de pouvoir offrir à chacun l'opportunité de ne plus vivre en marge de sa vie. J'ai créé ce podcast avec le rêve d'offrir un peu d'audace à tous ceux qui m'écoutent. En fait, j'ai le rêve que nous soyons heureux toute la semaine et non pas uniquement le vendredi après une semaine de travail. Alors si vous partagez ce rêve, parlez du MC Talks autour de vous, aux gens qui auraient besoin d'un petit coup de pouce pour vivre la vie qu'ils méritent. Et surtout, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Encore merci et bonne écoute.
Parfois déguisé en trader, en agriculteur ou encore en athlète olympique, depuis mon enfance, j'ai toujours aimé sentir la magie des métiers. En grandissant, j'ai pourtant appris qu'il est difficile de choisir le bon costume qui guidera notre vie professionnelle. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de créer MC Talks. Bienvenue dans un univers où je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités au parcours atypique et quelquefois étonnant.
Alors, je m'appelle Mathilde et je suis bergère. Du coup, mon métier de tous les jours, c'est de m'occuper de mon troupeau de brebis et de chèvres. Et du coup, s'occuper d'elles, c'est les emmener pâturer, trouver de l'herbe verte, les soigner quand elles ont un problème. Et
il y a combien de bêtes ?
Leur donner de l'eau. Moi, j'ai 30 chèvres et 50 brebis.
Wow.
Mais je travaille pour des patrons qui, eux, en ont plus, genre 1000 en tout. Donc, en fait, moi, je suis salariée de différents éleveurs. Mais ça fait 2 ans que je travaille avec le même éleveur qui, lui, a 1000 brebis. Et c'est un troupeau transhumain. Ça veut dire que ce sont des animaux qui sont toujours dehors et qui mangent toujours de l'herbe. Donc, et Christ, du coup... transhumant, ça vient du fait de transhumer, donc de changer de région selon les saisons.
Okay.
Donc l'été, on est en montagne, là où l'air est frais et l'herbe est fraîche aussi. Donc du coup, je suis en montagne de juin à fin septembre, mi-novembre, quand on peut. Mm-hmm. Et ensuite, l'hiver, je descends dans le sud, dans les collines et dans les vignes. Et donc dans des endroits de la dans le sud de la France du coup, et dans des endroits où le climat est plus chaud et où il y a de l'herbe du coup.
Et tu te situes où en
et
France?
Et donc ça, c'est...
juste avant.
Moi donc en montagne, je suis dans les Hautes-Alpes.
Ok.
Dans le 05, ça s'appelle le Dévoluy,
okay.
la vallée. Et dans l'hiver, je suis dans le sud, à Saint-Rémy-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône.
Oh, ok, pas loin de chez moi. Ouais, donc je t'ai coupé, t'expliquer, donc l'hiver tu retournais dans la vallée.
L'hiver du coup je retourne dans le sud.
Ouais, dans le sud.
Pour moi la vallée c'est le bas de la montagne, c'est pour ça que je dis ça.
Ok.
Donc en fait là à l'automne on redescend dans la vallée, dans le bas de la montagne du coup, parce que les brebis elles vont faire leur agneau. Et du coup donc elles vont faire les petits. Et du coup, ces brebis-là, il faut qu'elles arrêtent de marcher toute la journée dans la montagne. Parce que là, moi, du coup, ce que je fais tous les jours, c'est me promener dans la montagne avec mes brebis. Et j'habite sur place, je dors avec elles dans une cabane. Et tous les soirs, je les ramène dans un parc à ma cabane. Et tous les matins, je les ressors et on va se promener jusque sur les cimes, sur les sommets des montagnes.
Wow.
Et ça, tout au long de la saison, donc ça commence en juin. Donc en juin, on est en bas de la montagne. Et petit à petit, avec mon troupeau, je les laisse monter jusqu'à la cime. Et après, on redescend. En fait, la transhumance, c'est un peu une respiration de la montagne. Le troupeau arrive et il redescend, et, selon la saison. Voilà.
Et alors moi, la première question qui me vient en tête, c'est comment on fait pour gérer autant de brebis et comment on fait pour gérer autant d'animaux là ? C'est énorme.
Alors, pour gérer autant d'animaux, il faut beaucoup développer son regard. Il faut toujours les observer. Ah, il y a un avion qui passe.
Pas de souci.
et surtout, je fais comment ? Mon outil principal, c'est mon chien. Mes chiens, d'ailleurs, parce que j'en ai beaucoup.
T'en as combien ?
J'ai des chiens de travail, donc c'est plutôt des border collies ou un peu des races croisées, mais des chiens qui, en fait, sont vraiment à mes ordres et qui me regroupent le troupeau quand j'ai besoin. Et en fait, moi, quand je garde, je joue un peu à la bataille navale et j'essaye que mon troupeau ne bouge plus et s'écarte dans la montagne. Et du coup, avec mon chien, j'arrive à les contenir. Et des fois, j'en ai besoin pour des mouvements un peu plus brusques, pour les rentrer dans un parc ou quoi. Et du coup, là, c'est toujours mon chien qui le fait. Moi, bien sûr, je me place à des endroits voilà, précis. Donc, il faut toujours être au-dessus de son troupeau pour pouvoir les gérer. Mais sinon, un troupeau, quand même, des brebis et des chèvres, c'est quand même grégaire. Ça veut dire que ça reste quand même un peu ensemble.
Ok, il reste en communauté.
C'est pas n'importe quoi, c'est pas anarchique. Il y a vraiment un mouvement du troupeau qui est très beau à regarder d'ailleurs, comme des vagues, quoi. Ça reste ensemble et du coup, il faut gérer le flux de mouvement au sein même du troupeau pour qu'il ne bouge pas trop. Et... Du coup, c'est mes chiens. Donc, j'ai ces chiens de travail. Désolée, je ne te laisse pas poser de questions.
Non, vas-y, vas-y.
Du coup, j'ai les chiens de travail et à côté, j'ai aussi une meute au quotidien de 10 chiens de protection. Ceux-là, c'est des patous.
Donc, explique-moi un peu, chien de protection.
Ouais, alors chien de protection, c'est parce que du coup, nous, on évolue toujours dans des espaces sauvages et en liberté. Et donc, il y a de la prédation. Nous, dans les Hautes-Alpes, c'est surtout le loup. Et du coup, ces chiens, ils sont là pour protéger leur troupeau. Donc, quand ils naissent, déjà, ils naissent dans la bergerie, près de leur maman, mais au milieu des brebis. Et quand ils ont 2 mois et qu'on doit, c'est l'âge où ils ont plus besoin du lait de leur mère, on les enlève et on les met seuls dans un troupeau de brebis. Pour que là, ils fassent une famille avec leur troupeau. Et du coup, ça nous crée des chiens qui vraiment prennent les brebis pour leur famille. Est-ce qu'ils se comportent pas exactement pareil, mais bon, c'est leur rôle, quoi. C'est d'être vraiment dans le troupeau et de pouvoir, quand le berger, il dort, protéger, prévenir d'un danger qui arrive, etc., etc. Et du coup, sur un troupeau, là, l'été, j'ai 3 éleveurs qui me confient des brebis. Et du coup, j'ai 1200 brebis à garder. Wow. Et donc, j'avais 6 chiens. Parce qu'il faut à peu près un. Pour être bien protégé, il faut avoir un chien pour 100 brebis. Et du coup, chaque chien a vraiment son rôle. C'est une meute qui fonctionne contre ou avec, mais qui est là pour montrer son territoire face à une meute de loups, quoi, dans le pire des cas. Souvent, on n'en a qu'un qui vient se promener, mais ça peut arriver qu'il y ait la meute. Donc voilà, ces chiens, ils ont vraiment des rôles différents. C'est des chiens qui dorment avec les brebis, qui sont jamais à mes pieds, alors que mes chiens de travail, eux, ils sont à mes pieds et à mes ordres et presque ils dorment avec moi, quoi. Enfin non, mais enfin, je veux dire, ils ont vraiment des rôles différents et le patou, il doit vraiment rester toujours dans son troupeau. Voilà.
Je suis impressionné par le nombre d'animaux que tu dois gérer et surtout, je me dis que tu dois travailler non-stop là, pour gérer tout ce beau monde.
Oui,
leur donner à manger, faut se balader avec eux. C'est de quelle heure à quelle heure que tu travailles, c'est de minuit à
minuit. En fait, c'est avec le soleil. Du coup, ça dépend toujours aussi de la saison parce que c'est avec le soleil. Et plus le soleil, plus les journées raccourcissent, moins j'ai le temps de faire quelque chose dans la même journée. Mais sinon, oui, je suis toujours en train de travailler, toujours en train de soit nourrir mes bêtes, soit marcher, soit nourrir... Enfin, toujours, ouais. Et quand on descend, du coup, là, en montagne, c'est en liberté. Donc, je balade mes bêtes, je les observe. Ensuite, je les soigne le soir s'il y a besoin ou le matin. Et après, je donne les croquettes à mes chiens. Et après, là, je peux me faire à manger et aller me coucher. Du coup, une journée de début de saison, ça serait plutôt de 7h à 22h, quoi, en quelque sorte. Mais c'est un... Parce que tant qu'il y a le soleil, ben, tes brebis mangent déjà. Parce que les brebis, il faut qu'elles mangent au maximum. Et quand il fait très chaud l'été, elles font une grosse pause pendant midi. De 11h à 16h, elles bougent plus et elles ruminent. Donc, pendant ce temps-là, bah, toi, tu peux un peu faire la sieste. Mais par contre, après, il faut les rentrer qu'à 22h, quand vraiment le soleil se couche. Pour que la brebis, elle ait vraiment le maximum de temps pour manger et profiter de l'herbe fraîche.
Ok. Et c'est peut-être une question bête, parce que moi, je viens de la ville, je viens pas vraiment de la montagne ou de la campagne. C'est quoi la finalité de ce travail ? Qu'est-ce qu'elles font après ces chèvres et ces brebis ? C'est pour faire du lait ? C'est pour faire quel objectif ?
Alors, mes chèvres, elles sont là juste pour être jolies et parce qu'elles mènent mes troupeaux. Quand je prends la route, des fois avec mon troupeau qui me suit, les chèvres, elles m'aident beaucoup. Elles sont beaucoup plus proches de moi, elles sont plus dociles. Du coup, elles m'entraînent. Il faut savoir que 30 chèvres entraînent 1000 brebis. Quand le mouvement des 100 premiers est lancé, tout le reste va suivre. Donc ça, c'est très important. Et c'est aussi parce que c'est ma passion, je les trouve magnifiques. Et moi, mon but, c'est d'être libre. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Après, elles sont vraiment là, les brebis, on les garde. Une brebis va vivre à peu près 10 ans dans son troupeau et elle va faire chaque année des agneaux. Et les agneaux, c'est pour la viande. Donc tous les agneaux mâles vont être commercialisés. pour leur viande. Quand ils auront 6 mois, ils auront mangé de l'herbe pendant 6 mois et bu du lait de leur mère. Et là, la viande, elle est très bonne et c'est maintenant qu'il faut la vendre. Et
Okay.
sinon, tous les bébés femelles, les agnelles, donc, celles-là, on les garde pour renouveler le troupeau.
Okay.
Mais nos brebis, elles, en fait, nous, notre but de la journée, c'est que nos brebis mangent. Et c'est un peu au jour le jour. On ne peut pas tout prévoir, tout. Si on pense à l'argent, on ne peut pas faire ce métier parce que ce n'est pas vraiment un business. Bon, on peut en vivre. Moi, j'en vis parce que je suis salariée. Mais quelqu'un qui s'installe, c'est quand même beaucoup d'autres contraintes. Il faut vraiment faire ça par passion parce que ce n'est pas un métier où on voit directement l'argent
Ah ben j'imagine bien,
rentrer
ouais.
dans ses poches. Il y a aussi la laine.
Ah oui, donc oui,
Du coup, la
effectivement, ouais.
laine, voilà la laine, mais qui vaut pas très cher parce qu'elle est exportée et travaillée en Chine. Et du coup, le marché de la laine directe, il n'est pas très développé en France. Donc, contrairement à des années dans le passé, du coup, ce métier, c'est quand même le métier le plus vieux du monde, je crois. Mais avant, la vente de la laine permettait de payer tous les bergers. Donc c'était quelque chose qui rapportait vraiment de l'argent à une époque. Maintenant, plus beaucoup.
C'est
Donc
on
voilà,
a
moi
fermé les
j'en.
usines ou pourquoi d'un coup ça part en Chine et c'est plus en France?
Je crois que je
Je
pense que
pense.
ça va avec.
Ouais.
Enfin, je suis pas assez calée sur cette question. Je sais pas trop. Je peux pas
Ok, moi
trop.
je c'est pas de problème, c'est juste une petite curiosité que j'avais. Ouais, donc là on a bien compris les différents enfin la finalité du métier. Mais si quelqu'un veut devenir berger, là, il faut qu'il fasse comment? Parce que je me dis, y a pas beaucoup de bergers
Eh
quand même
ben,
encore aujourd'hui. Comment on
il y
fait?
en a. Il y a de plus en plus de femmes dans l'étude sociologique de
Ok,
ce point de vue-là.
excellent.
Il y a beaucoup de plus en plus de femmes et surtout que les conditions de vie du berger s'améliorent. Dans les montagnes, on a des conventions pour faire des bonnes cabanes, pour faire des choses comme ça, ce qui est très important parce qu'on passe notre vie dehors et quand on rentre. Moi, ça fait 6 ans que je suis bergère, du coup. Donc depuis que j'ai mes 20 ans, avant, j'ai fait des études de sociologie et de philosophie.
Oh,
Donc,
ok.
j'ai pas fait d'école particulière pour apprendre ce métier. J'ai appris sur le tas, comme on dit, c'est-à-dire l'école de la vie. Et je pense que c'est cette école-là qui marche très bien, mais il existe en France quelques écoles de bergers à
Ok, il
plusieurs
y a des
endroits.
écoles de bergers. D'accord,
Ouais,
c'est
des
elles sont où
petites
ça?
formations
Ouais.
d'un an ou de deux, mais des choses comme ça, où on t'apprend à soigner une brebis et où tu as des stages, où tu as des choses comme ça, et tu as beaucoup de théories sur les maladies, etc., quoi.
Mais toi,
Voilà.
donc t'étais en fac de philosophie, c'est ça que tu disais? Ok.
Oui.
Comment tu t'es dit, je passe de la philosophie à devenir bergère? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Comment t'as fait ce changement?
Alors moi, je suis quelqu'un de très, très sociable.
Ouais.
Je suis très bonne vivante et du coup, j'ai fait mes études et j'ai rencontré beaucoup de monde et j'ai eu une vie très citadine,
Ok.
très, très citadine, très engagée dans ma jeunesse, on va dire, dans ce qui m'entourait, dans mon milieu social, quoi. Et jusqu'au moment où je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce que je fais là? Dans le
Okay.
sens, sur Terre, pourquoi je suis là? Quelle est ma mission, en quelque sorte? Parce que oui, c'est beau de faire la fête, etc. J'ai fait des études qui m'ont quand même passionnée. Moi, j'ai voulu faire ça pour trouver la science à comment être heureux, en quelque sorte. Donc, ça m'a aidé à me poser des bonnes questions sur la vie. Mais du coup, la vie en ville, ouais, à un moment, j'ai un peu vrillé, j'ai craqué, je me suis dit, merde. En fait, je regardais tout ce que je faisais avec un troisième œil, une espèce de distance avec mon cercle. J'ai pété un petit plomb et j'ai été faire du bénévolat dans une ferme. En woofing, ça c'est
Ok,
international
ouais,
le
ça je connais
woofing.
ça.
Voilà, ben moi j'ai fait ça et je suis atterri dans des montagnes. Donc faut savoir que moi je viens de Paris, enfin pas Paris mais Montargis, donc c'est à 1h30 en voiture, 1h30 de train peut-être de Paris. Donc c'est un peu la campagne, mais c'est quand même pas loin de la ville. Et j'ai fait mes études à Tours, qui est une ville très vivante aussi, plus petite que Paris. Et du coup, attends, j'en étais où? Je me suis perdue là.
Donc tu disais que
Retour.
t'as fait ton woofing dans une
Voilà.
ferme et
Dans une ferme
que
dans les Alpes-Maritimes, donc en montagne.
Ok.
Et donc là, j'ai rencontré le monde c'était des chèvres laitières. Donc là, j'ai fait la traite. Donc à 6 heures debout, 2 heures de traite, ensuite aller faire les fromages, ensuite aller garder les chèvres, ensuite nourrir les chiens. Enfin voilà, encore des journées qui sont très riches. Et à la fois, en fait, dès qu'on se réveille, du coup, le sens à notre vie, il est évident. On ne se pose plus de questions avec son cerveau parce qu'on doit prendre soin des bêtes. Et ça, c'est génial. C'est ce qui m'a fait vraiment le déclic un peu de… J'ai eu l'impression de me trouver moi.
Et justement, là, tu dis que ce processus où tu t'es posé la question de qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, quel est le sens de ma vie, ce processus, il a duré combien de temps ? Est-ce que c'était un processus d'un an, deux ans, ou ça a été juste un pétage de plomb, comme tu l'as dit, de un mois ou deux ?
Eh bien, je pense, alors pour en revenir à la question de pourquoi je suis bergère, du coup, d'où ça vient ?
Ouais.
Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui part de mon enfance. Parce que quand j'étais petite, je jouais dans le jardin, dans ma cabane avec mon chien. Du coup, je n'ai pas l'impression d'avoir changé de vie et d'avoir eu un déclic, un pétage de plomb, comme j'ai dit juste avant. J'ai plutôt l'impression d'avoir trouvé le sens, mais qui est dans moi. Par contre, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai pris une décision assez soudaine. Ça, oui, le moment où j'ai dit bah, « tiens, je pars en woofing ». Parce qu'avant d'être bergère, je ne savais pas vraiment que ça existait. Et donc, ce woofing, c'est bon. Il faut dire que je suis partie avec un pote à moi aussi. Et lui, voilà, j'ai un peu pété un plomb parce que quand même, j'ai loupé mes derniers partiels pour aller là-bas.
Ah oui, quand même, parce que tu as investi du temps, tu as investi du travail. Et là, tu te dis, bah non, ouais, je vais pas au partiel, je vais aller faire du woofing en Alpes-Maritimes.
Si, j'ai été au partiel, mais je les ai loupés parce que c'était le jour de mon anniversaire et que j'ai fait une fiesta. Du coup, j'ai été appelée au rattrapage de philosophie. Du coup, j'ai vraiment pris tout ce qu'il y avait de bon à prendre. Et c'est partiel. Bon, et en plus, j'ai fait une double licence et la sociologie, je l'avais eue. Donc, si jamais j'avais besoin de rebondir avec des études et des diplômes, je l'avais quand même dans mon sac à dos, quoi. Okay. Donc, je suis partie un peu en pétant un câble, mais en même temps, j'ai rien gâché du tout. Depuis, je suis bergère et bon, j'ai quand même été… L'année d'après, j'ai quand même été en Roumanie finir ma dernière année de sociologie, du coup.
Oula, alors, donc, tu as fait le woofing, puis ensuite, tu es partie en Roumanie.
Voilà. Ouais, pour finir mon année d'études, pour pas justement tout plaquer.
Ah oui, donc tu n'as quand même pas fait ça, tu as essayé de faire ça bien, quoi.
Ouais, bon, ah, oui. Oui.
Okay.
En fait, comme je faisais une double licence, la philosophie, j'ai un peu envoyé péter pour aller vivre mon expérience parce que j'avais vraiment besoin de sortir de ma vie qui ne m'allait pas. Pourtant, je faisais du théâtre, tout ça, c'est des choses qui étaient géniales. Mais quand même, mon quotidien, ça n'allait pas. C'était pas ce que moi j'aime respirer, j'aime marcher, enfin voilà. Et du coup, j'ai eu ce déclic en allant faire du woofing, mais je suis quand même, pour finir ma deuxième licence, qui elle, je voulais pas la rater pour quand même avoir un diplôme en poche, ne sachant pas ce que j'allais faire plus tard de ma vie encore. Du coup, ça, je l'ai fini en Roumanie. Et en Roumanie, moi, j'ai beaucoup voyagé avant d'être bergère quand même. J'ai fait l'Inde. J'étais où en Finlande, en Australie, au Vietnam. Enfin, j'ai quand même voyagé pas mal. Mais pareil, la question me revenait de quelle est ma légitimité sur Terre à être là. Et dans le voyage, encore plus, parce que du coup, on est souvent face à des populations qui sont pauvres. Souvent, c'est quand même ça. Il y a quand même deux faces du monde. Et nous, on est nés du bon côté. Et du coup, quand on y va, c'est génial, mais à la fois, moi, je me posais toujours cette question, quoi. Enfin, je vais m'étaler, là.
Vas-y, étale-toi.
Dans mon but de vie, du coup, j'ai trouvé ma passion qui sont les brebis et qui me permettent un bien-être fou. Mais du coup, il y a quand même aussi en montagne, maintenant que ça fait 6 ans que je suis bergère, quand je suis sur les cimes et que je regarde mon troupeau et que j'ai le temps de réfléchir, parce que je réfléchis du coup maintenant beaucoup, toujours, mais plus positivement et dans mon élément, donc c'est génial. Je me dis, bon, maintenant c'est bien, toi t'es heureuse, t'es là-haut, mais qu'est-ce que tu peux apporter aux gens ? Parce que c'est quand même important dans notre génération, et dans notre vie et dans l'état actuel des choses, de la planète, tous ces problèmes, parce qu'on n'est pas dans un monde rose quand même quand on ouvre les yeux, et bien c'est important d'apporter sa petite contribution pour justement que la nature reste au centre des préoccupations. Et du coup, ça me plaît de parler de mon métier, de rencontrer des gens. Il y a des gens qui viennent à ma rencontre. J'ai reçu des groupes cette année là-haut pour leur expliquer un peu mon métier. Et voilà.
Et revenir à la… Donc là, tu étais en Roumanie. Pourquoi tu es revenue ? Enfin, pourquoi ? J'ai bien compris que tu avais trouvé, en fait, je pense, un sens à ta vie, une… tu avais trouvé ce que tu aimais. Mais comment, c'était quoi le processus de je finis la Roumanie, je reviens en France et hop, je me lance direct pour être bergère. Comment tu as fait ?
Alors là, ça a été une grande expérience. Ça a été un grand moment. Je suis rentrée. Alors, il faut savoir qu'en Roumanie, c'est un pays d'élevage. Et j'ai vu des moutons partout.
Ah oui, t'étais submergée là.
Voilà, dès que tu sors de Bucarest, donc dans les bus, là, tu vois des petits troupeaux de brebis partout avec leurs bergers. Par contre, ils sont à un stade de vie qui est beaucoup moins confortable que le mien, bien que le mien soit quand même assez rude. Eux, c'est pire, ils ont une cape et une bouteille d'eau et voilà. Et des chiens, toujours, beaucoup de chiens. Et parce qu'en Roumanie, ils font avec l'ours aussi.
Ok.
Du coup, je suis arrivée. Ouais.
Ok.
Ouais. Du coup, je suis arrivée en. Après avoir fini mon diplôme en Roumanie. Et j'ai regardé des annonces de bergers parce qu'il y a quand même un blog qui répertorie les annonces de travail pour les bergers, quoi.
Ok. C'est quoi le nom de ce blog pour, si jamais ça
Blog emploi berger.
D'accord, très bien.
Et par contre, sur Facebook aussi, il y a une bourse d'alpage, je crois que ça s'appelle Bourse berger d'alpage.
Ok.
Enfin bon. Il y a plein de ça quand même ça aussi avec le temps ça il y a le monde du berger commence à se médiatiser en quelque sorte et du coup c'est plus facile pour avoir des infos pour trouver du taf. J'ai appelé une annonce, deux annonces en disant voilà, moi je suis Mathilde, j'ai envie de faire bergère mais j'ai jamais gardé en montagne, j'ai eu que telle expérience. Et du coup, j'ai eu deux propositions. La première, c'était dans le dévolu, ici où je me trouve maintenant, 5 ans après, je suis revenue. et c'était direct, je te prête un chien et tu montes 6 mois là-haut. Et je te fais confiance. Et l'autre, c'était plutôt, je te garde 7 saisons à la ferme et l'été prochain, tu vas en montagne. Donc, j'avais à choisir entre ces deux-là. J'avais un peu peur, mais j'ai choisi de prendre le risque de me lancer directement à l'aventure. Et j'ai pas regretté parce que du coup, ça a été une expérience très formatrice, géniale. Et quand je suis sortie, et avec des conditions très précaires, j'avais une cabane, fallait faire 10 minutes de marche pour aller chercher un peu d'eau. Il y avait juste de la tôle sur des murs en béton avec un poêle à bois et un placard et une table de berger, mais c'est tout quoi. Ça, c'était à 1600 mètres. Et à 1800, j'avais une autre petite cabane. Et j'ai vraiment là vécu l'expérience tranchante entre. Ma vie en ville et ma vie dans la nature. Je me suis écartée de tout ce qui n'est pas nécessaire. Et je me suis retrouvée avec l'essentiel pour vivre. J'ai appris à m'ennuyer en quelque sorte, sans jamais m'ennuyer. Il y a vraiment un rapport au temps qui est différent. Quand on est berger à la montagne, on vit avec la nature, on observe et on n'a plus d'heures. C'est le soleil la montre. Et aussi, quand on est là-haut, on ne peut pas être appelé à des rendez-vous ou rappelé au monde d'en bas à des choses. Enfin, quand on est là-haut, on est là-haut. On peut pas descendre de la montagne. On a 2h30 de marche. On a un troupeau. C'est cette expérience-là qui m'a forgée. Là, j'ai passé 6 mois en montagne après la Roumanie, parce que du coup, en Roumanie, j'ai pensé que aux moutons, quoi. J'attendais que ça.
Ah, tu les voyais tout le temps, en plus.
Ben, oui, j'en voyais partout. Et moi, j'étais encore étudiante, à me chercher. À voyager, ça a été génial parce que j'ai fait toute l'Europe. Mais voilà, quoi, pas encore un sens sur Terre, quoi, où vraiment tous les jours je suis utile. Je suis revenue au monde normal et j'ai fait de l'animation.
Ah oui, rien à voir.
Ouais. Mon premier métier, c'est animatrice. Regarder des enfants ou travailler dans des centres de vacances.
Mais il y a un truc qui me rend curieux, c'est tu dis j'ai été coupée de vie sociale pendant ces 6 mois où tu t'es lancée comme ça à l'aventure. Comment tu vis 6 mois où tout à coup, tu te retrouves seul avec de l'ennui, avec un rapport au temps complètement différent? Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais là? Genre, pourquoi je me suis mis dans cette situation?
En fait, il y a eu ce moment-là, au moment où j'ai changé de cabane, où je suis montée à un étage plus haut et que depuis cette cabane, on ne voyait plus du tout ni une lumière de village, ni rien du tout. Et que j'étais super haut, super loin. Et là, il y a eu les deux premières semaines où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là et comment je vais faire? En plus, à l'époque, j'avais pas le smartphone. Enfin, là, j'ai un iPhone maintenant. Je capte en plus sur ma nouvelle montagne. Donc, c'est différent. Donc, ça m'a fait un peu peur. Et à la fois, j'ai trouvé une routine qui m'a permis d'être la plus heureuse du monde. Et je crois que depuis ce temps-là, j'ai pas retrouvé si belle énergie. Et... Parce que du coup, tous les matins avec le soleil, donc pas de réveil de la saison. Moi, pas de réveil de toute ma vie maintenant, c'est terminé les réveils. À part quand il faut prendre un avion au cas où. J'ai trouvé une routine de vie qui était géniale. Et je marchais toute la journée dans la montagne et je rentrais le soir, bah, j'étais fatiguée et je dormais. Et voilà, en fait, finalement, ça s'est très bien passé.
Et t'avais pas des
j'ai vraiment pas eu...
peurs quand même ou des, je sais pas, de te dire est-ce que j'ai fait le bon choix ?
Ah non, ça a été. Je me suis jamais posé la question de est-ce que j'ai fait le bon choix.
Ah pour toi, c'était naturel. C'était sûr, c'était ça quoi.
Ah c'est devenu. Bon, tu vois, je suis redescendue des Steve, j'ai quand même retenté l'animation parce que j'étais pas encore sûre.
Ouais, mais
après,
ça, ouais.
j'ai mis 2 ans à me dire ok, je vais faire bergère. Et c'est le moment où j'ai pris un chien, mon premier chien de travail qui s'appelle Nino. Du coup, lui, d'accord. Je me suis dit, bon, bah, pendant 10 ans, je suis bergère maintenant, j'ai plus le choix. Mais sinon, là-haut, non, c'est vraiment, je me suis pas posé la question. Il y a juste à la fin de la saison ou au mois d'octobre, tu commences à avoir froid, tu as perdu 10 kilos, tu n'as pas pris une vraie douche, tu n'as pas vu. Du coup, je suis, pour la petite histoire de la continuité de la première estive, je suis descendue au village le premier jour où l'estive était terminée. Du coup, j'ai rendu le troupeau, les chiens et tout le monde. Et on m'a accueillie au village et du coup, j'ai ouvert un robinet. Il y avait l'eau chaude qui coulait.
Ah, c'est cool, ça.
Enfin, ça a été toute la redécouverte de notre monde qui est normal, en fait, pour les gens qui habitent en bas. Mais qui, quand tu ne l'as pas eu pendant 6 mois, c'est un truc que tu redécouvres et c'est super marrant, ça. Du coup, après ce passage où tu redécouvres la vie, voir ta famille, c'est surtout ma famille à laquelle j'ai pensé et qui m'a manqué.
Ouais,
j'ai été les voir directement après. Ouais. Et eux, quand j'ai été les voir, c'était ouais, ça, c'est chouette de retrouver sa famille quand même. Surtout ma grand-mère qui m'attend, qui m'appelle tous les dimanches pour savoir si ça va, s'il pleut, si mes brebis vont bien, etc. Ce retour au monde d'en bas, et c'est quand même le blues du berger, c'est quelque chose qui existe. Parce qu'on retourne dans la vie normale et en fait, on s'est désacclimaté de cette vie-là. On a eu une vie là-haut tout à fait différente et quand on redescend, il faut se réhabituer en quelque sorte à la vie normale. Et donc, moi, sans me poser de questions, dès que je suis descendue ou pas longtemps après, j'ai été voir des amis et j'ai été dans un festival. Et. Et ça a été un peu trop
brutal.
En fait. Ouais, c'était trop brutal. C'était un peu trop compliqué. Mais voilà, maintenant que je suis bergère depuis quelques années, j'ai plus trop ce malaise de revenir. J'ai plus trop le blues parce que je le sais maintenant que ça va être différent. Je commence à être vraiment habituée au changement du coup de saison. Et du coup, l'été, je suis plutôt loin de tout, mais l'hiver, je revois un peu du monde.
Comment tu fais pour voir du monde? Parce que tu as quand même 1000 animaux à gérer. À quel moment tu peux partir et aller voir
Je peux pas partir souvent et ni longtemps, mais par contre, je peux faire des parcs. On a des filets mobiles qu'on plie, qu'on replie, qu'on replante, qu'on déplante,
okay.
Dans lesquels on met l'électricité aussi. On a des petits postes. Et là, dedans, on les parque et c'est des moments où on peut s'absenter pour aller faire des courses ou partir. Mais pas trop un week-end. En fait, du coup, je travaille avec Sébastien. Donc, on est en binôme. C'est mon éleveur, celui qui a les 1000 brebis. Et du coup, quand c'est pas moi qui, quand moi, je m'en vais, bah, c'est lui qui gère. C'est vrai que comme je travaille avec la vie, c'est vraiment un métier de tous les jours. Mais quand on peut aussi être berger tout court et donc être berger et faire les saisons. Et donc, c'est jamais notre troupeau. Donc, on s'en occupe un temps donné. Et ensuite, on peut les redonner et aller 6 mois faire autre chose. Mais moi, j'ai décidé, tellement c'est un métier qui me passionne, j'ai décidé d'avoir mon troupeau et de l'élever petit à petit et de le gagner. En fait, là, j'ai gagné 50 brebis cet hiver en travaillant. Et du coup, elles vont bientôt me faire des agneaux. L'année prochaine, j'aurai sûrement 100 bêtes, plus mes chèvres. Et donc, je vais devenir éleveuse, éleveuse bergère. C'est un autre cap où là, non, si on décide de faire ça, on n'a pas de temps pour faire autre chose. Mais à la fois, comme je te disais, moi, j'ai vraiment trouvé un sens à ma vie et j'ai l'impression, en ayant mon troupeau, de gagner ma liberté. Notamment là, avec ce qui s'est passé, le Covid,
Ouais.
du
Comment on
coup,
le vit, ouais?
ce printemps, moi, le Covid,
C'était normal en fait pour
je l'ai.
toi.
Ben, en fait, c'était même mieux parce que les villes se sont désertées. Du coup, j'ai été avec mon petit troupeau dans les jardins au bord des villes, sans voiture, sans trop de monde qui passe au milieu, sans touristes qui viennent voir les tours à Saint-Rémy-de-Provence pour prendre des photos. En fait, je me suis retrouvée avec mon troupeau dehors et je me suis dit, mais là, Mathilde, t'es la seule qui a pas besoin de son papier pour sortir 1 heure. En fait, moi, j'ai le droit d'être là parce que j'ai mon troupeau et c'est ma liberté, mais parce que je n'ai pas le choix. C'était mon travail. En fait, je nourris mes bêtes là en étant dehors dans la nature. Et du coup, c'était vraiment une place privilégiée par rapport à tout ce monde qui s'est retrouvé enfermé. Voilà, ça a renforcé mon idée qu'avec mon troupeau, puisque j'aime ça, ça me donne ma liberté d'être toujours dehors, de marcher, d'avoir le temps et d'être dans un environnement privilégié, quoi. Et tout le temps. Je
Et
suis
t'as pas
jamais
quand même des
enfermée.
moments de stress, des peurs, je sais pas, au quotidien, non? Tu te sens complètement épanouie?
À la montagne, j'ai des moments de stress et d'énervement parce que du coup, le troupeau évolue dans un espace qui est immense. Et du coup, il peut se passer des choses qu'on n'avait pas prévues. Ça, c'est forcément comme on travaille avec la vie, on ne contrôle pas tout.
Ouais,
Et
les
du coup, il faut lâcher
prédateurs,
prise.
tout ça.
Bah voilà, soit un prédateur qui t'attaque le troupeau, soit même le troupeau qui se coupe en deux. Et du coup, c'est la fin de la journée, il faut aller rechercher 100 brebis là-haut ou des choses comme ça. Ou le chien qui aujourd'hui est pas très réceptif et du coup, ça se passe pas comme on veut, on peut s'énerver. Mais j'espère qu'en vieillissant, j'arriverai à plus m'énerver et à trouver la sagesse. Mais sinon, oui, au quotidien, je suis quand même. Bon, il y a bien des jours où je me dis, vas-y, ça me saoule, qu'est-ce que je fous là? Mais c'est rare. Et ça, le lendemain matin, je me dis. Enfin, je me pose plus la question, quoi. Donc, je pense que c'est comme dans tous les métiers. On a des moments avec un peu des bas de temps en temps où on se dit, putain, c'est chiant,
Ouais, qu'est-ce
j'en ai
qu'on fait
marre.
là?
Mais le lendemain, ça va mieux. Et donc, du coup, bah, c'est super, quoi.
Le rapport à l'argent, c'est vrai que moi, par exemple, je sais que je me suis souvent dit pendant mes études, c'est je veux gagner un bon salaire, je veux avoir un confort de vie. Toi, tu as l'air de dire que c'est pas en tout cas ta priorité. Est-ce que ça, quand même, il y a un moment où tu te dis j'aimerais bien avoir un plus gros confort de vie, un meilleur salaire, ou vraiment le fait d'être avec ton troupeau dans la nature, c'était ta liberté, c'était uniquement ça, et le problème de l'argent n'a jamais été un problème pour toi. Et même pour ta famille, est-ce que ta famille t'a pas dit au bout d'un moment, il faut peut-être gagner plus?
La question de l'argent n'a jamais été ma priorité quand j'ai choisi de faire mes études. Déjà là.
Ok.
Quand tu vas faire une fac de philo et de
Ouais,
sociologie,
c'est
tu
vrai.
t'attends pas à être médecin. À gagner 6 000 boules, enfin non. Et du coup, mais par contre, en fait, je manque pas d'argent parce que je vis sans argent, presque. En fait, je dépense de l'argent pour faire mes courses. Mais sinon, je vis en camion aménagé. Donc, j'ai jamais de loyer. Et quand je suis bergère, soit on me prête une caravane, soit l'été, j'ai une cabane. Et du coup, je paye pas mon loyer. Donc oui, par contre, au bout de 5 ans bergère, je t'avoue que je sais vivre à la route, mais j'ai quand même besoin aussi de me projeter et de me dire, quand même d'avoir un confort de vie un peu meilleur parce que c'est rude. C'est déjà une vie qui te met tout le temps dehors. Donc, quand tu rentres chez toi, c'est bien d'avoir ton petit poêle à bois, le coin de faire une douche. Enfin, c'est quand même important. J'ai une nouvelle montagne avec une cabane qui est au top. Et du coup, je vis très bien l'été dans une cabane qui est super chouette. Donc là, la question du confort se pose pas. Et l'argent non plus, parce que l'été, du coup, il faut savoir que moi, je gagne 2 200 euros. Alors, par contre, le rapport heure de travail, salaire, il faut pas le compter. Mais
Mais
moi, je
c'est
trouve
tout le
que c'est
temps.
un bon salaire, surtout que je ne dépense pas d'argent, en fait. Pour l'instant, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de charge de maison ou de loyer. Du coup, je suis assez libre aussi de ce côté-là. Par contre, je pense quand même à évoluer et à gagner ma vie. Et c'est vrai que dans le métier d'éleveur, ce n'est pas un métier où tu peux facilement gagner des 1 000 et des 100. Tu arrives à vivre, mais pas trop à gagner de l'argent non plus. Mais c'est vraiment pas trop ma question, ça m'inquiète pas du tout parce que au jour d'aujourd'hui j'ai de l'argent de côté. Si j'ai un pépin avec mon camion ou ma voiture, je peux gérer. Pour mes animaux, tant qu'il y a de l'eau et de l'herbe et de l'ombre, et eh ben je manque de rien. En plus, je suis pas du tout dépensière. Moi, j'achète le minimum. Alors, ma plus grosse dépense, ça va être mes pantalons et mes chaussures, parce que je les use. Et je dis, j'ai des bonnes chaussures de montagne qui valent un peu cher. Mais sinon, je dépense rien.
Ouais, c'est ça, t'as une vie assez frugale, tu dépenses pas grand-chose. Et
Bon.
ta famille, est-ce que
Bah,
c'était un moment ou un autre un frein ou plutôt un moteur?
ma famille, ils étaient... En fait, avant que je fasse ce métier, ils ne savaient pas que ça existait non plus, on va
D'accord.
dire, dans un sens. Ils ont été surpris, surtout la première année où mes parents sont venus me voir tout là-haut. Là, ils ont eu peur un peu, enfin, pas peur, mais... Enfin, mon père, non, parce qu'il est proche des animaux, il a compris. Ma mère, elle a une vie très citadine, elle est cadre. Du coup, elle a une vie plutôt normale, enfin, et plutôt très différente. Et du coup, quand elle s'est retrouvée tout là-haut, à voir dans quoi je vivais, ils ont quand même compris. Quand on vient me voir là-haut, on comprend tout de suite. Parce que moi, mon bureau, il est magnifique. Donc, certes, c'est une vie qui est rude, où voilà, on n'a pas tout le confort du monde, mais par contre, on a vraiment le plus beau confort de vie, mais dans un autre sens du mot, quoi. Dans le sens où on a une qualité de vie qui est exceptionnelle, même si des fois c'est rude parce qu'il y a la neige, la tempête, et que c'est tous les jours, et que des fois il y a l'orage, et il y a ces moments-là. Mais sinon, au quotidien, bon, ils peuvent vite comprendre. Et c'est surtout au fur et à mesure, chaque année, ils sont venus me voir au moins une fois l'été. Et même si les cabanes sont rudes, à chaque fois, ils ont des paysages plein la vue et un monde où moi, j'évolue au milieu de mes chiens et de mes brebis, et ils me voient heureuse. Du coup, ils ne se posent plus la question si c'est bien, mauvais ou quoi.
Ok, bon, ça.
Et je subviens à mes besoins, donc ils ne sont pas inquiets. Tout va bien
Très bien,
là-dessus. Puis en
ça
plus,
porte moins.
et par contre, tu vois, cette année, ma sœur aussi est venue, parce que dans les discussions de famille, ils savent pas trop où je suis, ils savent pas ce que je fais, mais tu t'ennuies pas avec tes moutons, souvent, c'est ça la question. Et puis, oui, pareil, mais qu'est-ce qu'elle fait là-haut dans sa montagne? Et en fait, quand on vient à ma rencontre, ben on comprend tout de suite qu'est-ce que je fais. On le voit, il y a plein de choses à faire et je suis pas là juste sur mon bâton en train de regarder mes brebis.
Toi, quand tu imagines le futur, pareil, pour construire toi-même une famille, je ne sais pas si c'est un objectif de vie. Si c'en est un, est-ce que ta vie de bergère, ça rentre pas un peu en conflit avec ça?
Alors là, jamais ce serait un conflit et au contraire, c'est vraiment pour moi, le meilleur moyen d'élever un enfant, si je veux un enfant un jour.
Ouais.
Par contre, en effet, il faut réunir pour le coup des conditions de confort de vie plus importantes que là, à l'arrache dans mon camion. Enfin, et dans ma cabane, ça le fait parce que c'est vraiment une cabane avec une douche, des toilettes, une gazinière. Bon, je me
Ouais,
vois
une bonne
le
hygiène de vie.
faire. Par contre, il faudra sûrement quelqu'un qui m'aide à faire la bergère, au moins les 3 premières années, j'imagine, parce que. Ou à moins que je porte le petit sur mon cheval et que j'y arrive comme en Mongolie, ma foi, ça me fait pas peur. Mais c'est vrai qu'il faut quand même penser à ce confort-là. Et du coup, pour l'hiver, comme je transhume, il y a aussi cette question de confort. Et aussi la question où quand il va avoir 3 ans, il va falloir qu'il aille à l'école. Mais là, je me dis aussi qu'il peut faire l'école à la maison. Enfin, il y a plein de solutions. Mais en tout cas, en aucun cas, je veux abandonner ma vie de bergère pour autre chose. Et si j'ai des enfants et que j'arrive à gérer les deux, parce que j'imagine que c'est beaucoup plus de fatigue et qu'il y a quand même encore un autre stade à gérer, quoi. C'est pas que les moutons.
Ouais, parce que j'ai l'impression que tu travailles, enfin, c'est même pas qu'une impression, c'est tu le dis, tu travailles tout le temps, tu as tellement d'animaux à gérer. Je me dis que ça peut rentrer,
Ouais.
c'est là où je dis que ça pourrait rentrer en conflit, en fait, avec une vie de famille et prendre du temps pour autre chose, que c'est finalement ta vie, c'est ton troupeau.
Ouais, carrément. Bah, du coup, c'est des questions un peu
On a
irrésolues.
encore du
Mais en
temps,
tout cas,
hein.
ça me. Ouais, voilà. Mais je veux dire, je ne me bloque pas la possibilité. Au contraire, je pense que c'est vraiment le meilleur endroit pour élever une famille. Par contre, oui, il faut quelqu'un, il faut du soutien. Et voilà, quoi. Mais ce n'est pas un frein, mais c'est une autre organisation, quoi. Mais une fois que c'est organisé.
Ça peut se faire.
Je pense qu'il n'y a pas plus heureux pour les enfants à 6 ans, qui partout, d'être libre dans la montagne toute la journée.
Ah bah
Mais
ils ont
bon.
un immense jardin là, ils peuvent s'amuser.
Ah bah là, voilà, c'est ça.
Et il y a deux questions que je pose toujours à mes invités. Bah, y a la première, c'est alors on est encore jeunes tous les deux, mais quel conseil tu pourrais donner à la Mathilde, peut-être qui est bachelière. Si tu devais lui murmurer dans l'oreille quelque chose, tu lui dirais quoi?
Je dirais, t'inquiète pas, ça va bien se passer.
Ok. Et.
Ouais. Voilà.
Et c'est... trois. Dis-moi, oui.
Non, je sais pas, je.
Fonce, juste, ça va bien se passer, vas-y, quoi.
Bah, fonce, pas trop, parce que la bachelière, elle fonçait un peu trop, justement.
Ralentis, vas-y.
Ouais, voilà, calme-toi, t'inquiète, ça va bien se passer, mais fais pas trop de bêtises, t'as pas besoin.
Et trois valeurs qui te guident, trois valeurs que. Voilà, les trois valeurs de la vie de Mathilde, c'est quoi?
Donc, la première, aime-toi toi-même parce que tu es ton meilleur allié, on va dire, dans la vie. Et que si tu ne te regardes pas toi ou que tu ne t'aimes pas, eh ben, tu n'arrives pas à avancer dans le bon sens. La deuxième, c'est aime les autres et juge pas. Ne juge pas les autres, mais aime-les pour ce qu'ils sont. Et la troisième, ça serait d'aimer la nature aussi, quoi, de la chérir. L'amour.
En fait, c'est de l'amour. En fait, il n'y a même pas trop de
valeur. Voilà, donnez de l'amour à tout le monde. Ne vous oubliez pas vous-même et ça va bien se passer. Non, ouais, c'est vraiment, il faut chérir la vie, en fait, en général.
Donc, aime-toi, aime les autres, aime la nature. Finalement, propage le plus d'amour autour de toi et sur toi. Merci, Mathilde, ouais. pour ce moment et pour toute la description de ce métier qui est. J'ai reçu vraiment beaucoup de messages de personnes qui me disaient on a hâte de découvrir son parcours et son métier. Donc, je suis super content que tu aies pu nous en parler.
C'est un plaisir pour moi de parler de ce métier.
Comment on peut. Okay. comment on peut suivre un peu tes aventures, ton métier
J'ai une passion tous les jours dans la montagne, c'est de faire des photos. Et du coup, il y a un bon cadre et des beaux animaux qui te posent, qui font rêver. Et du coup, j'ai un Instagram qui s'appelle tilde-mathilde. Donc, tilde Mathilde.
Ok, donc tilde-du-bas Mathilde.
Ben, tilde-du-bas ma-du-bas tilde.
Ok, excellent. On voilà. pourra se retrouver là-bas. Merci beaucoup, Mathilde.
Voilà. De rien, merci à toi.
Ce podcast étant une histoire commune entre ses auditeurs et ses invités, je voulais vous remercier pour votre écoute. Aussi, vos notes, commentaires ou encore le bouche à oreille sont au cœur de la réussite de cette aventure. N'hésitez donc pas à partager votre avis.